directeur et l'un des programmateurs de La Vapeur ici, qui est un lieu labellisé scène de musique actuelle de Dijon. C'est un établissement public de la ville de Dijon et nous sommes ravis avec l'équipe de vous y accueillir pour ces 2 journées professionnelles. Demain nous serons à la Minoterie avec qui Christian prendra la parole après moi, avec qui nous co-organisons ces journées. Et donc il nous semblait pertinent de faire aussi de vous réunir dans les deux lieux, dans les deux équipements. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, moi j'étais focalisé là-dessus, mais avec les nouvelles mesures qui sont arrivées, nous on a une salle d'une capacité de 1200 places à côté, avec malheureusement des concerts complets, donc on est obligé de pas mal changer notre organisation dans les prochains jours, les prochaines semaines, donc ce qui fait que je fais plus ça en ce moment que les journées pro. Mais voilà, je vais quand même essayer d'être présent au maximum. L'idée, c'est quand même de réfléchir à la création musicale jeune public et peut-être aussi à comment la faire évoluer et la soutenir dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, mais en élargissant le spectre à l'ensemble des expériences, des dispositifs, des réseaux qui vont nous apporter, des artistes évidemment qui vont nous apporter leurs éclairages pendant ces 2 journées. Ça va, j'espère, nous permettre aussi en région de souder un certain nombre ou de fédérer des énergies qui sont déjà plus ou moins fédérées, mais qui n'ont pas forcément traité de cette question-là précisément jusqu'à présent. De notre côté, à La Vapeur, ça nous permettra aussi de réfléchir à l'intégration de la diffusion et du soutien à la création jeune public dans notre projet. On l'a toujours défendu depuis une dizaine d'années, enfin depuis 9 ans, mais là on était un peu en réflexion sur savoir de quelle manière l'intégrer ou le défendre à l'avenir. Donc je pense que ça va aussi nourrir notre réflexion. Voilà, j'en dis pas forcément beaucoup plus pour l'instant. Juste, j'espère que ce sera fructueux et puis qu'il y aura beaucoup d'échanges parce que c'est surtout ça qui va nourrir nos débats. Voilà. Je passe la parole à Christian qui
Oui,
va peut-être.
bonjour, Christian Duchamp, donc le directeur de la Minoterie, qui est aussi un lieu labellisé, qui est une scène conventionnée art enfance et jeunesse. Voilà, il y a de nouvelles appellations au nombre de trois: art et territoire, art et création et art enfance et jeunesse. Donc la Minoterie a été appelé de cette manière-là depuis 2018. Donc nous sommes dans un premier mouvement de cette labellisation et voilà, nous sommes préoccupés, et avec Yann on a marqué déjà quelques étapes de collaboration, nous sommes préoccupés ensemble par la question de la création jeunesse dédiée à l'enfance et à la jeunesse, la création musicale. Donc il nous semblait intéressant de continuer à réfléchir et nous avons essayé de produire ce rendez-vous de ces 2 journées, j'en suis ravi. Je vous remercie d'être présent et dans la diversité de vos présences, je crois qu'on va trouver des solutions pour avancer. L'idée, c'est que nous recevons beaucoup d'équipes en résidence chez nous. C'est le principe de la maison, où on en dira 2 mots, j'imagine, au cours de ces journées. Et dans ces résidences, nous sommes toujours un peu inquiets de voir fleurir des projets où la discipline et le langage principal est la musique. Et donc, c'est pour nous aussi, ces 2 journées, l'occasion de lancer et de continuer à lancer des mouvements des désirs d'artistes et des désirs de structures sur ces questions. Je dis 2 mots pour faire relais avec ce qu'a dit Yann sur plutôt l'organisation. Ça ne vous a pas échappé, la structuration de ces 2 journées. Il y aura, comme il l'a dit, beaucoup de témoignages, de comptes rendus d'expérience, de rapports à des dispositifs par les gens qui les portent et les animent. Ça, c'est super. Il y aura des artistes qui viendront aussi témoigner des projets qu'ils ont faits où la musique était le langage principale. Et puis il y a deux autres grandes familles de travail. L'autre, c'est en 2 temps, une fois ici cet après-midi, une deuxième fois demain, c'est d'essayer de travailler un peu à définir, à approcher la spécificité de ce que serait un travail musical dédié à l'enfance et à la jeunesse. Voilà, est-ce que c'est particulier, en quoi ça a des spécificités par rapport à une adresse plus large au tout public. Voilà, ça va nous aider aussi à construire la troisième partie qui, elle, se veut plus pratico-pratique, mais je je trouve qu'elle a son intérêt tel qu'on l'a souhaité, c'est-à-dire la troisième partie serait plutôt d'engager un processus de réflexion avec tous les partenaires que vous représentez ici, un processus de réflexion sur un appel d'offres, un appel à candidature qui pourrait être soutenu prioritairement par la minoterie et la vapeur conjointement, mais avec d'autres partenaires.
Toutes les bonnes volontés.
Bien sûr, notre idée, c'est de voir comment c'est nécessaire et possible avec d'autres partenaires autour de nous. Mais on voudrait porter, accompagner encore plus précisément ces créations jeunesse musicale. Et on voudrait pour ça commencer ici pendant ces deux jours à réfléchir à quel serait le meilleur outil, quel meilleur dispositif sera à mettre en place qui puisse tenir compte de la demande des artistes, de leurs besoins, de la demande des lieux et la demande des différents partenaires de réseaux et de festivals. Voilà. Donc comme vous êtes représentatif de toutes ces températures-là, excusez-moi du terme, ça sera intéressant de commencer à se poser la question d'un éventuel dispositif au service des artistes qui veulent créer pour l'enfance et la jeunesse.
Voilà. Et puis donc on a décidé avec la minoterie de monter ces journées, mais le programme a été constitué en partenariat avec le réseau Ramdam, avec aussi le soutien du Lab, de la FEMA. Et donc, si tu veux nous dire un mot de Ramdam, puisque votre expérience va nous être précieuse, et puis ça a déjà commencé dans la construction du programme et le choix des intervenants.
Bonjour à tous, moi je suis Lily Oudebine, donc je suis la cofondatrice et présidente du réseau Ramdam. Le réseau Ramdam, c'est un réseau qui a été monté il y a juste 2 ans, donc c'est un réseau assez jeune. L'idée de ce réseau, c'est de fédérer tous les acteurs musique, jeune public, qu'ils soient dans les salles, dans les compagnies, dans les réseaux enfance et jeunesse, dans les réseaux musique, dans les sociétés civiles, dans les festivals, enfin à peu près tous les acteurs qui nourrissent en fait ce secteur. Donc je voulais déjà saluer en fait l'initiative de la minoterie et de la vapeur, parce qu'une SMAC et une scène conventionnée, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des liens. Donc je voulais déjà saluer cette initiative parce qu'elle n'est pas toujours, mise en valeur et elle n'existe pas forcément toujours. Et je pense que c'est important qu'il y ait des liens comme ça qui existent et qu'il y ait des initiatives comme celle-là. Et je les remercie aussi de nous avoir sollicité pour venir co-construire cette rencontre. Le réseau Ramdam, du coup, existe depuis 2 ans. Et en fait, nous, on a, dès le départ, les actions qu'on a menées, c'est énormément de rencontres sous deux formes, des rencontres régionales, mais aussi ce qu'on appelle des remue-ménages, des rencontres sur des thématiques qui sont diverses au secteur, qu'on mène. Cette année, on va en mettre en place à peu près une vingtaine de rencontres dans toutes les régions de France. Cette année, on a deux dossiers qui vont être un peu plus prioritaires, qui vont être sur la formation des artistes pour la création musique et jeune public. Donc je sais que ce sera un temps de rencontre qui aura lieu demain, sur lequel Camille, la cofondatrice du réseau avec moi, viendra témoigner un petit peu des avancées qu'on a pu mettre en place au sein du réseau. L'accompagnement du dispositif Salmom qui avec la SACEM, puisque la SACEM est un des vraiment un très grand partenaire du réseau, puisqu'ils nous soutiennent depuis le début.
Ils sont présents et
ils interviennent. Et j'ai été à les saluer parce que c'est vraiment, en tous les cas, le pôle jeune public de la SACEM est un vrai partenaire et on est en vraie complémentarité de travail. Il y a une vraie fluidité, en tous les cas, dans tout ce qui est mis en place et de concertation et de réactivité sur tout ce qu'on peut mettre à disposition au niveau du secteur. Donc, je tiens à les saluer ici, à les remercier. Et donc, voilà, on va vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais on va essayer d'accompagner, de faire de la mise en lien sur ce dispositif-là pour permettre, en tous les cas, qu'il y ait une vraie fluidité entre les équipes artistiques, les salles, et que ce dispositif-là, en tous les cas, prenne essor et soit de plus en plus sollicité par le plus grand nombre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que de plus en plus sur le réseau, sur le site, il va y avoir de la veille, des informations sur des appels à projets, sur un certain nombre de choses. Donc n'hésitez pas à adhérer, parce qu'effectivement, c'est aussi le nerf de la guerre dans le réseau. Il faut adhérer et montrer qu'on est nombreux à se rassembler autour de cette thématique. Et puis, Voilà, n'hésitez pas, il y a Eric qui est là, je ne sais pas où il est dans la salle, par là, qui est le coordinateur du réseau et qui pourra aussi vous répondre à toutes les questions que vous avez à ce sujet. Et, voilà. Je vous remercie en tous les cas d'être là parce que c'est bien que vous, sur ce territoire, en tous les cas, c'est la première rencontre qui a lieu. Et donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
Eh ben, on espère aussi. On va pouvoir commencer par le premier temps d'échange. Et puis, il y a deux temps ce matin pour aller jusqu'à 12h30, ce sera l'heure du repas qui se passera en bas. Il faudra redescendre par rapport à ce matin. Donc, voilà, juste ces petites informations pratiques. Et puis, on peut se lancer. Bah, bonne journée, bons échanges.
Bonne journée.
Dans l'idée, sur ce premier temps-là, avec Elsa, Agathe et puis le réseau, on avait décidé d'inaugurer un petit peu cette thématique et cette problématique de comment accompagner la création musicale au jeune public, en y invitant des artistes, parce que je pense que c'est des artistes ou des structures qui ont cette expérience-là et de pouvoir justement vous nourrir de ces expériences-là, pour pourquoi pas alimenter ce dispositif-là. Donc dans l'idée, dans un premier temps, on va ce qu'on appelle consacrer ce temps à ce qu'on appelle un partage d'expérience, voilà, c'est comment ils sont à travers le collectif Ubique et puis Hélène Bernard de la structure Digenèse Plan Neuf. Donc l'idée ça va être une petite discussion entre nous au départ et avec vous aussi, parce que n'hésitez pas à poser des questions, l'idée c'est surtout d'être dans l'interaction. Et puis il y a un second temps qui sera plutôt dédié à une table ronde sur les spécificités de la création musicale jeune public, où là, en fait, on aura d'autres intervenants sur l'idée de comment, en fait, on peut accompagner ces créations musicales jeunes publics, en quoi sont-elles spécifiques, et puis ben, on y reviendra dans un second temps. Donc là, on a un petit peu à la bourre. L'idée, c'est de commencer vraiment sur le partage d'expérience. Donc je vais inviter, en fait, Simon, Audrey et puis Hélène à rejoindre la magnifique scène. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que... c'est un peu improvisé, mais j'aime bien ça.
Vous allez danser?
Je vais danser.
Au fond, si vous êtes mal installé sur les tabourets hauts, vous pouvez prendre des chaises plus confortables.
L'objectif, dans un premier temps, je pense qu'il serait peut-être plus sympa, c'est déjà de regarder des vidéos. Pour un peu se mettre dans l'ambiance et puis après on partira sur des petites questions, voilà, que j'ai un peu préparées. On va peut-être se décaler pour lancer. Alors il y a une vidéo sur le collectif Ubique et puis une vidéo aussi sur Plan Neuf pour voir un petit peu après comment, de quoi s'agit-il.
On commence par
de longs couloirs, passa les cuisines, le petit salon, et au détour d'un grand hall, elle découvrit une lourde porte, jamais vue auparavant. Elle la poussa.
En fait, de ce temps de partage d'expérience, c'était surtout de réunir, alors comme on peut le voir, en fait, deux univers différents en termes de jeunes publics. Hein. Il y a un univers plutôt dédié à l'image et au cinéma, enfin au court-métrage avec Plan 9, et puis plutôt théâtre, musique, on va en parler maintenant. Donc je ne sais pas comment vous voulez déjà vous présenter, si c'était sympa, voilà, dans un premier temps, et puis après on va enquiller sur des petites questions autour de votre parcours, de vos étapes, vos cheminements de création, et puis surtout votre vision un petit peu de la création musicale jeune public, voilà, par rapport à votre vécu. Donc je ne sais pas comment on distribue la parole, peu importe, allez-y.
Moi je suis Vivien Simon, je suis chanteur lyrique de formation, comédien également, et je suis du collectif Ubique, donc une compagnie théâtrale et musicale qui est implantée dans l'Eure, à Bernay en Normandie.
Et donc je fais partie du même collectif Ubique. Moi je suis Audrey Daoudal, je suis violoniste de formation et comédienne, et voilà. Et alors il y a Simon aussi qui n'est pas présent, Simon Vadel, qui lui est instrumentiste et qui est donc le troisième artiste, si on parle que des artistes, au plateau, voilà, du collectif.
Spécialiste des cordes anciennes.
Alors, bonjour, donc Hélène Bernard, moi je suis directrice d'une association dijonnaise qui s'appelle Plan 9. C'est une association dédiée à la promotion et à la défense du cinéma indépendant et principalement le court-métrage. Et on organise notamment le festival Fenêtre sur Cour, qui est un festival de court-métrage qui existe depuis 25 ans cette année. Voilà, et on s'est lancé dans la création jeune public musique à l'image en 2016.
D'accord. Je vais commencer. Alors moi je me présente aussi, je suis Eric Fagnot. Donc comme le disait Émilie tout à l'heure, je suis le coordinateur du réseau Ramdam. Donc... on a des petits cartons à l'entrée d'adhésion, n'hésitez pas à les prendre. On les a bien pliés, bien mis en évidence. Hein, voilà, c'est intéressant. Enfin, l'intérêt du réseau, c'est quand même de réunir les professionnels de la filière musicale jeune public, pas les spectateurs, mais pour les spectateurs. Toute esthétique confondue. Donc n'hésitez pas à en prendre. Et puis moi, je serai là en fait toute la journée. Demain, Camille sera là. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour nous poser des questions par rapport au réseau. Donc. J'ai pu commencer à rencontrer quelques acteurs durant la pause café, là, donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai fait ma pub, c'est fait. Moi, je voulais commencer par le collectif Ubique. L'idée, c'était de savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé comme collectif à travailler ensemble. Et donc, tu parlais de violoniste de formation.
J'ai commencé le violon.
Tu as commencé le violon, il y a un spécialiste de musiques anciennes, vous êtes tous spécialistes de quelque chose. De toute façon, c'est super intéressant, mais... qu'est-ce qui vous a motivé à travailler ensemble et pourquoi prendre la direction du jeune public? C'est un parcours dans lequel vous avez déjà évolué. Comment est venue l'idée justement de ce collectif?
Alors, tout s'est fait un peu par hasard en fait. Je connaissais Simon d'une académie baroque, l'académie du Périgord Noir. Je connaissais Audrey d'une école de théâtre et d'un projet qu'on avait fait ensemble. Et Simon Adèle, qui vient de Bernay, a eu une commande d'un festival qui s'appelle le Festival Alexandre. Il a dit, tu viens de la ville, on aurait besoin d'un petit concert, d'une espèce de carte blanche. Donc il m'a proposé, j'ai proposé à Audrey, qui a proposé de travailler sur Hansel et Gretel. Et on a proposé un format de 30 minutes, un espèce de concert autour de ce conte-là. Donc on a à la fois mis en musique, on a réécrit le conte, et on a commencé à jouer tous les personnages. Et de ce festival, on a rencontré quelqu'un qui nous a conseillé de passer les JM France. On a commencé à tourner avec les JM France à ce moment-là, pendant 2 ans. Puis on a eu le réseau du Chaînon Manquant. Et petit à petit, ça a grandi. Mais à la base, le tourner en jeune public s'est fait un peu par hasard.
C'était pas un choix délibéré au départ en disant on veut aller vers ce...
C'est lié à la commande directement pour le festival. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Et puis après, notre façon de travailler et notre humour a fait qu'on s'est tourné vers le conte, on l'a adapté. Et en fait, c'est un tout public, parce que c'est à partir de 6 ans, mais ça s'est fait un peu par hasard au final. Mais ça nous plaît bien.
Ah non, mais ok. Oui, donc on est...
Mais on n'était pas parti comme ça.
Dans l'idée, en fait, c'était... Parce qu'on peut éventuellement... porter confusion en disant oui, on est sur des contes traditionnels. Alors, je dis bien des contes traditionnels, le choix de contes traditionnels, mais revisité à une sauce un peu contemporaine avec un ton poétique et décalé. Mm. Et c'est vrai qu'on peut prétendre le fait de faire d'aller vers du conte traditionnel fait que c'est un choix délibéré et pas du tout en fait. C'était pourquoi ce choix justement d'aller vers des contes? Au départ, en termes de création, ça...
Le fait est que c'était l'alexandrin qui était mis à l'honneur pour ce festival, pour la création. Et donc, je me souviens que Vivien a écrit une chanson très rapidement qui est restée finalement dans la chanson des cailloux, qui était en alexandrin. Simon a gratouillé un truc en musique et en fait, on s'est assez vite retrouvés en une après-midi à s'entendre aussi tous les trois. Ça rebondissait, l'humour, les idées, le fait qu'on soit musicien. Et c'est venu comme ça, en fait, un peu par hasard, on va dire. Mais ça a marché. Et pourquoi le conte? Après, Hansel et Gretel, ce choix-là, parce que le conte, il est super chouette. Enfin, il rassemble plein de trucs, la forêt, la peur, enfin, comme dans plein de contes. Hein, mais... Ouais, c'est... Et après, naturellement, je pense pour La Belle au bois dormant, qui est la deuxième création, il y a une envie de... creuser notre façon de faire. On a beaucoup développé les textes dans La Belle au bois dormant, il est plus nourri, les musiques aussi, enfin notre adaptation, etc. Et on part sur une troisième création qui, pareil, va clôturer un peu la trilogie en essayant encore de développer ça.
Donc on sera sur une troisième création, sur un conte classique. Encore. Mais justement, s'attaquer à un conte classique, ça peut au départ faire peur en fait, hein. C'est un peu... comme un peu intouchable en disant mince.
C'est vrai, quand on en parle aux gens, parfois, les gens ont peur.
La Belle au bois dormant,
je pense qu'il fait la richesse de ce qu'on propose. C'est aussi ce qui fait la grande faiblesse pour le diffuser. Parce que je me souviens, on a joué là récemment au Festival Momix et le directeur nous a dit, c'est vrai, je vous ai vu à Avignon. On y venait, il y a Une Belle au bois dormant, compte théâtral et musical. Déjà, tu te dis. Oh.
On arrive
dans la salle, on voit 3 chaises entourées d'instruments. On se dit, ça va être long, 50 minutes. Et c'est vrai que c'est difficile d'en parler.
On arrive habillé en noir, on s'assoit.
On s'assoit. Il y a, je pense, 30 secondes de spectacle au début, les gens font. Et je comprends, parce que c'est vrai que c'est des contes que tout le monde connaît par cœur. Mais notre force, c'est qu'on arrive à surprendre grâce à ça.
Oui, c'est ça, c'est la surprise.
Voilà, qu'on arrive, on dit, Hansel et Gretel, La Belle au bois dormant.
Et la manière d'écrire, justement, tu parlais, Audrey, tu disais que la deuxième création était complètement différente. Comment elle est, la manière d'écrire sur ces contes-là? Parce qu'on les réadapte, c'est une écriture collective. Comment ça fonctionne dans le collectif, justement?
Faites des tactiques de fou, du
4-4-2, j'en sais rien.
On se filme beaucoup pour le travail, parce qu'on est nos propres metteurs en scène. Enfin, on est à l'origine des textes, des compositions, donc de l'interprétation parce qu'on est au plateau, et on se met en scène tous les trois, donc on se filme beaucoup, ça fait du bruit, ça, c'est super. Et donc bref, et sur La Belle au bois dormant, l'histoire c'est qu'on n'a pas, encore une fois, on a un peu choisi par hasard le conte, et on s'est même dit après coup, au bout de 6 mois, mais pourquoi on a pris cette histoire? Et en fait, ce qui était super, c'est que on a remis le personnage de la Belle au bois dormant au centre de l'histoire, qui est dans la version de Perrault un peu
endormie,
beaucoup passive. Elle agit pas énormément. Et ça nous a vachement plu. Et donc, on a vraiment dans ce conte-là réécrit ce qu'on n'avait pas fait sur Hansel et Gretel, beaucoup. On avait interprété, c'est-à-dire la scène des parents, ils font des factures, il y a EDF à payer, il y a des trucs qui sont contemporains. Il y a plein de. Voilà. Mais sur la Belle, il y a vraiment une réinterprétation du conte qu'il n'y avait pas présent.
D'accord. Et là, donc, dans ce cadre-là, c'est une écriture à trois. C'est, chacun arrive avec son inspiration.
Ouais. En fait, de plus en plus, on mélange nos disciplines. C'est-à-dire que Simon Wadel, qui à la base est vraiment instrumentiste et formé, il sort du Conservatoire de Lyon, etc. Maintenant, on l'a formé au jeu, donc il participe énormément aussi aux impros pour les dialogues, pour l'écriture des textes. Et maintenant, c'est vraiment un puzzle. Des fois, j'arrive avec une mélodie, mais je suis incapable d'harmoniser, donc Simon va le faire. Ou Audrey arrive avec tiens, j'ai vu un film hier, ça me fait penser, toc, on improvise. Donc tout fonctionne comme un espèce de puzzle géant. Et à chaque fois qu'un nouvel élément arrive, il faut reconsidérer l'ensemble, et c'est ça qui prend énormément de temps. Après, les idées viennent de tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, sur La Belle au bois dormant, j'avais envie qu'il y ait de la cornemuse. J'avais essayé la cornemuse 2 mois avant, je fais, il y aurait une cornemuse. Donc là, on s'est dit, comment introduire une cornemuse? Au début, c'était, on avait pensé à une intro, un peu comme on peut retrouver dans le poème harmonique, cet ensemble baroque. Finalement, on a fait, non, il faut qu'il y ait une fiesta. Il faut qu'il y ait une grosse fiesta avec la cornemuse. Donc on a cherché du répertoire pour trouver comment introduire ça. Et puis le choix des instruments vient aussi parfois de nécessité. Bon, là, il nous faudrait une sonorité plutôt comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver soit d'un instrument qu'on joue pas, donc dans ce cas, il faut l'apprendre, puis il faut l'acheter. Ouais. Soit d'un instrument qu'on joue déjà, et dans ce cas, comment on peut l'introduire, etc.
Donc, ouais, en fait, c'est un vrai travail de transversalité en fait, entre vous trois, parce que chacun apporte. C'est une espèce de polyvalence artistique en fait,
oui,
le collectif.
Ça, ouais.
C'est ce qui fait sa force.
Il y a même des impros, par exemple, pour des dialogues, on peut arriver avec j'ai pensé, tiens, cette scène-là, ça se passerait là, je sais pas, un lieu où on transpose, et là on se met à improviser sur nos chaises en se filmant. Enfin, ça peut vraiment être.
D'accord.
On regarde, fin de journée, on commence à écrire les dialogues, on a retenu ça. Enfin voilà, c'est vraiment. Pour le coup, le processus est long.
C'est un peu ce qui est aussi la caractéristique d'une création jeune public, enfin, ou du public, mais on est sur un processus de créatif généralement relativement long. Mais justement, vous parliez de. Vous utilisez la caméra comme support d'accompagnement, en fait, et comme support pédagogique, mais est-ce que vous avez bénéficié d'accompagnement de structure ou vous avez été aidé là-dessus dans cette forme d'accompagnement
on l'est là,
précisément.
Je parle des deux premières créations, la troisième là qui est peut-être en chantier.
Non, c'est sur La Belle au bois dormant, cette semaine, justement, on va faire des captations, ce qui est un outil essentiel et nécessaire. Et donc, on est soutenu par la SACEM qui vraiment nous soutient depuis longtemps. Et ça, par exemple, c'est un élément qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a pas et qui va vachement nous servir.
Moi, je n'entends pas tout ce que vous dites.
Pardon.
On va peut-être prendre un.
Je disais que du coup, là, sur l'accompagnement de la deuxième création, on a un soutien de la SACEM sur des captations qui sont des éléments qu'on n'avait pas, enfin des outils qu'on n'avait pas sur notre 2. Merci.
Sur notre 2.
Sur Hansel et Gretel et La Belle au bois dormant. Et après, non, c'était plus dans le travail, je crois.
Alors, moi, dans l'idée, c'était de savoir éventuellement si vous avez bénéficié de dispositifs d'aide à la création et surtout si vous avez bénéficié de soutien à la création dans l'accueil de structures.
Là, pour la troisième création, oui. On avait quand même. On a été forcément, depuis le début, soutenus par quand même, ne serait-ce que dans la diffusion, les JM France qui nous ont repérés, avec qui on a tourné. Avec Hansel et Gretel et avec lesquels on fait sur La Belle au bois dormant, on a fait tout. Et ça, c'est avec la ferme du Buisson qui nous soutient et qui nous a suivis et qui donc continue là sur la petite sirène. Je peux le dire, c'est un peu officiel.
Ah, c'est un scoop ce matin.
Changé, en plus.
Oui, bien sûr. Dans l'idée, c'est aussi de faire l'interaction, l'échange avec la salle, il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Par contre, est-ce que tu veux le micro parce que ça va pour le.
Parler fort. Est-ce que vous interdisez d'aller vers d'autres types de textes ou de sources que les contes traditionnels, ou est-ce que c'est parce que vous méconnaissez la littérature jeunesse et ce qu'elle propose
Non.
Non, on ne se l'interdit pas, mais là, c'était un souhait de notre part de créer un triptyque avec justement trois contes très connus, donc Hansel et Gretel, La Belle au bois dormant, et puis pour la troisième créa, quitter l'univers de la forêt, du végétal, etc., qui sont très présents dans les deux contes, et partir sur de l'univers aquatique, où déjà, nous, ça nous ouvre une autre dimension pour les instruments. Après, effectivement, pour la quatrième création, puisqu'on, je crois que c'est l'objectif, on a envie de travailler ensemble et de continuer à travailler tous les trois, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais c'est sûr, on va en tout cas quitter les contes connus, traditionnels, et sûrement quitter le jeune public. Parce que c'est un souhait de notre part pour voir ce qu'on peut explorer d'autres, et au niveau du texte et au niveau des sonorités.
Après, dans ma question, il y avait aussi l'idée que les contes traditionnels ont été réécrits aussi. Alors vous avez peut-être besoin d'écrire vous-même, hein, c'est ça, si je comprends bien. Parce qu'il y a aussi, les contes traditionnels ont été revisités... y compris encore récemment par
oui,
des
même
auteurs.
En, mais même en BD ou c'est ça c'était
oui,
ça,
oui, même
oui.
En écriture
ah, oui, bien sûr.
Les contes que... existent aussi comme La Petite Sirène par exemple, il y a des versions aujourd'hui
oui, en fait on a besoin pour répondre à la question d'interpréter de notre propre interprétation enfin, en tout cas c'est ce qu'on fait
oui
le texte n'est pas premier, c'est ça
non. Bah non, parce qu'en fait, comme tout est lié même à la musique, en fait, la réécriture même du conte se fait aussi même par la musique. Dans les ambiances, voilà. Donc oui, en effet, le spectacle en lui-même est une adaptation du conte. Je sais pas si c'est très clair.
Je vais éviter son micro, ça va là ? Vous m'entendez ? Moi, je voulais justement parler de la musique, bien évidemment, enfin, qui a une place aussi centrale dans vos créations. Je voulais justement, comment vous travaillez la composition est-ce que vous partez du texte? Alors tu disais tout à l'heure que tu as eu une révélation au niveau de la cornemuse et tu t'es dit on va faire une fiesta avec la cornemuse dans l'idée c'était aussi de détourner un petit peu la sonorité de la cornemuse, mais comment on travaille la composition en fait, comment vous travaillez la composition et qu'est-ce qu'elle apporte justement au récit, parce que je pense que la place de la musique elle a un vrai enfin limite, ça peut être un quatrième personnage dans le collectif. Ouais. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais voilà.
Bah, il y a plusieurs cas de figure. Si je prends des exemples concrets dans La Belle au bois dormant, par exemple, j'étais arrivé, j'avais écrit un texte, une chanson des fées. J'ai dit, voilà, à ce moment-là, je pensais bien qu'il y a un temps musical. Et j'ai dit à Simon, il faudrait un truc en dessous, au théorbe, ou au luth ou à la guitare, un peu magique, quoi. Donc, il a gratouillé quelque chose pendant un quart d'heure, il est revenu et la chanson est née comme ça. Il y a une autre musique où là c'est juste du texte par-dessus et après il y a vraiment un instant instrumental où c'est Simon qui est arrivé avec une mélodie qu'on a appelée la musique de l'hiver et là c'est juste un temps où les choses se posent donc des fois c'est des chansons, enfin des chansons en tout cas des textes slamés parce qu'on évite de chanter parce que ça tombe vite dans l'effet continu, on n'aime pas ça ou alors c'est ça accompagne vraiment en tant que paysage sonore. Ça soutient le texte ou alors ça vient le compléter après une partie de récit, etc. Et c'est ça qui prend le plus de temps en fait, de trouver le bon timing à chaque fois. C'est pour ça qu'on se filme énormément, on se dit bon, là c'est trop long, là il y a trop de texte, là il n'y a pas assez de musique ou il y en a trop, etc. Il faut doser au fur et à mesure.
La musique elle peut être utilisée justement dans les créations du collectif comme un décor sonore en fait.
On peut le considérer. D'autant qu'on a pas, on est vraiment assis sur trois chaises, et puis on dit tout à l'heure, mais c'est une contrainte, et en même temps, c'est ce qui fait que des fois, une fois, il y avait une petite fille qui m'avait dit bah, t'as pas de robe, du coup.
Bah oui.
Et que du coup, on raconte, on est et les fées, donc les fées, sculpteurs,
Les fées, abracadabra.
Abracadabra, voilà. Et la belle bois dormant, une sorcière, un bûcheron, enfin n'importe quoi en fait. Donc vraiment, c'est sans costume ou sans décor. Ouais.
Et la multiplicité, la multitude justement d'instruments sur scène, elle est aussi pour servir l'histoire,
oui.
Elle est présente. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant.
Bah,
il y a un mélange de baroque, plutôt musique ancienne, baroque, un peu plus moderne.
Bah, pour rebondir sur ce que...
Ouais, pourquoi ces choix-là, en fait? Bah, j'imagine qu'ils sont liés forcément à vos formations de musicien.
Oui. Bah, moi, par exemple, j'ai une formation de violon, mais je suis pas... je suis surtout comédienne dans ma pratique en dehors du collectif public. Donc là, sur La Petite Sirène, j'ai envie de travailler avec de l'harmonica. Mais sinon, je n'ai pas une palette de d'instruments aussi vaste que celle de Vivien ou de Simon, par exemple. Donc le violon, il était là sur les deux premières créations, il sera là sur... parce que c'est mon instrument, on va dire, de prédilection. Je te laisse.
Non, mais c'est vrai que la quantité d'instruments qu'il y a sur scène est aussi là un peu un hasard. C'est pas on s'est dit, on va avoir le max d'instruments sur scène, pour que ce soit super impressionnant. Non, c'est juste une accumulation de, bah là j'ai besoin d'un effet de bruitage, donc j'aurais besoin de ça, donc on cherche, donc il y a un bâton de pluie. Là j'aurais besoin d'un truc où je peux à la fois éclaircir l'ambiance, mais avec des sonorités, donc ça va être des xylos. Ah bah je veux faire de la cornemuse, je veux faire du bodhrane, j'aimerais qu'il y ait de la musique traditionnelle irlandaise, comment on gère tout ça, et ça fait qu'effectivement il y a beaucoup d'instruments sur scène, mais c'est pas un parti pris en soi dès le départ, c'est juste une conséquence de ce qu'on veut faire.
Mais c'est en lien et en miroir avec une scénographie, pour le coup, très épurée, puisque c'est, comme on le dit, en effet, il y a peut-être une appréhension quand on arrive, en disant il y a beaucoup d'instruments et puis trois chaises. Donc ça, c'est un choix aussi dès le départ, parce qu'il y a aussi, c'est aussi visuel, enfin, l'idée de...
De la disposition.
Oui, et puis c'est vrai qu'au début, on a eu Hansel et Gretel, au tout début, on a mis quand même un an à de gros doutes. On se dit, est-ce que ça fonctionne, notre format? Est-ce que les enfants comprennent? Au départ, même au tout début, on avait un chapeau pour changer le personnage. C'est comme ça, ils comprennent bien qu'on change de personnage. En fait, ils n'ont pas besoin de ça du tout.
Ouais.
Si tout est dans le rythme et bien timé, il n'y a pas de problème en général.
Et justement, sur l'idée de la notion en direction du jeune public, oui, et de l'adresse au jeune public, alors vous qualifiez votre spectacle aujourd'hui plutôt de tout public, parce qu'on peut aussi bien, par ce que vous faites en termes de création, parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Je pense que
oui,
c'est...
Oui, mais
c'est...
après, c'est, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ça, mais on joue en scolaire, donc en jeune public, ouais, et on fait aussi des séances familiales, ou tout public, avec en soirée, avec les parents ou des adultes, etc. Et c'est vrai que ça marche très bien. Nous on aime bien parce qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture dans ce qu'on écrit, donc il y a des blagues aussi pour les adultes qui vont comprendre et les enfants vont faire ah, et c'est ça qui est rigolo parce que du coup, et ça prend pleinement son sens avec les familiales, mais ça fonctionne, on fait beaucoup de scolaires et ça marche parce que ça reste du jeune public quand même,
oui,
c'est quand même à destination du jeune public.
Il y a un vrai travail, oui, c'est vraiment,
voilà,
à destination,
ouais,
dans un premier temps.
Bah oui, ouais.
Justement, pour finir un petit peu, parce que je suis désolé, le temps presse, votre vision un petit peu de la création musicale jeune public, parce que comment on peut le qualifier, votre spectacle? Est-ce que c'est du théâtre? Enfin, moi, je parlerais plutôt du théâtre musical ou une adaptation,
ouais,
musicale d'un
musical,
conte, hein, ou conte musical. Si vous aviez une vision un petit peu globale des choses, c'est,
ouais,
aussi pour faire avancer un petit peu le débat et puis nourrir aussi ces deux journées-là. Ce serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue.
C'est vrai que...
C'est quoi, vous, sur une création musicale jeune public aujourd'hui, de quoi doit-on tenir compte? C'est quoi vos attentes, vos besoins en tant qu'artiste, justement, alors, pour le coup, sur le jeune public, puisque vous êtes sur une préparation d'une troisième création, si j'ai bien compris, vous quittez le jeune public à la quatrième, non, vous êtes dans le triptyque, vous ne savez pas encore, mais comment vous, c'est quoi votre vision, vos attentes aujourd'hui, et surtout, qu'est-ce qu'on doit tenir compte quand on a une structure qui veut vous aider aussi, comment on peut,
oui,
vous accompagner là-dessus?
Bah...
C'est une dure question.
Ah ouais, c'est balèze, hein. Non, mais je me suis creusé quand même.
Après, je ne sais pas, par exemple, c'est peut-être tout bête, mais c'est vrai que pour des enfants, voir nos spectacles, ça peut aussi être découvrir la musique, découvrir ce que c'est qu'un instrument. L'exemple de la cornemuse, il est drôle parce que elle n'intervient que pour la fête au début dans le château. Ah ouais, il y a une grosse fête, bon bah il y a une cornemuse et on ne le réutilise pas après. Bon bah putain, je me dis, si ça se trouve un enfant découvre ça et il a envie à la fin, tiens, d'essayer. Bon bah je sais pas, c'est peut-être dans l'accompagnement, c'est des... Je sais pas.
Non, mais t'étais bien, André, là.
C'était bien parti, mince.
Bien, ouais,
non, mais c'est peut-être avoir des budgets pour acheter des instruments de musique, pour essayer. C'est vrai que Vivien a des appos, il y a des choses qui ne servent qu'à un instant. Le violon, il est tout le temps utilisé. Donc ça, c'est le mien, c'est mon instrument. Donc on va pas...
Toi, en fait, tu orienterais vraiment sur tout ce qui est pédagogique et tout ce qui est destiné à la sensibilisation des enfants par rapport à...
Ouais, je sais que c'est un...
Parce qu'il y a aussi le monde, il y a à la fois les instruments, il y a une richesse aussi,
ouais,
dans vos créations, mais,
oui,
aussi le conte et l'écriture qui sont aussi,
oui,
importants,
oui, bien,
j'imagine.
Sûr. Oui.
C'est une entrée...
Oui, oui, oui.
En fait, ce qui est important de comprendre, c'est... Nous, on ne cherche pas à... Comment dire ça? En fait, nous, on écrit des choses déjà, d'abord, en tout premier temps, qui nous font marrer. Si ça ne nous fait pas marrer, on ne les fait pas.
Oui.
On essaye à tout prix d'éviter un discours volontairement édulcoré pour les enfants, parce que c'est pas notre cas en fait. Et je pense que ce discours-là, il est important. Il n'y a pas besoin d'avoir une robe de princesse et une couronne pour faire une belle au bois dormant. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'un grand décor, mais il y a besoin de temps. Il y a besoin d'essayer, de rater. Et nous, là, on va l'expérimenter pour la première fois, c'est-à-dire pour la troisième création, on a une deadline. C'est en décembre 21, donc ça paraît loin, mais nous, on fait. Parce que on a des nouveaux instruments qu'on a déjà achetés, il faut apprendre à en jouer. On a du rammer drum, on a de l'harmonica. J'ai un Eru, c'est un violon chinois, c'est injouable. Je vais m'arracher les cheveux là-dessus. Donc on est là, ouais. On a choisi la petite sirène, la version d'Anderson. C'est pas non plus youplaboum, donc qu'est-ce qu'on va en faire? C'est tout un processus où on se dit, certes c'est du jeune public, mais...
Oui. Vous en parlez de plusieurs versions de traduction
du... Pour l'instant, pas trop.
Pour l'instant, on n'a qu'une seule, seule traduction.
Mais c'est en termes de texte.
Vous demandez conseil, par exemple, sur les écritures contemporaines pour la jeunesse, il y a aujourd'hui une grande quantité et qualité de production, y compris, comme je vous disais tout à l'heure, je laissais entendre, des adaptations de contes anciens. Et donc, ça pourrait être aussi une façons de vous aider, c'est de vous mettre en rapport avec des écritures qui sur ce choix de contes-là, pourraient vous donner aussi une forme de littérature, de récit, qui soit peut-être
qui viennent compléter
au service de votre projet.
Complètement, comme on le fait d'ailleurs assez naturellement en allant regarder un film d'animation ou autre chose, une musique, mais en effet sur les...
En fait, le temps presse, je suis désolé. Ce que je vous conseille, comme on va tous manger ensemble, etc., l'idée, c'est de pouvoir après en discuter, parce qu'on va passer maintenant à Hélène et au plan 9. Là, dans l'idée, vous êtes présents toute la journée, donc n'hésitez pas à se solliciter, puis à pouvoir se rencontrer autour d'un café ou d'un repas, etc. Donc Hélène, donc tu as présenté tout à l'heure en fait l'objectif un peu de l'association, qui est défendre un peu le cinéma, le court métrage, donc un autre rapport au jeune public. Justement, le rapport au jeune public, notamment dans l'association Plan 9, il est dans un premier temps surtout, alors tu me contredis si je me trompe, plutôt lié à l'éducation artistique et culturelle, notamment dans le champ de l'éducation à l'image. Mais c'est pour ça que moi la question qui m'a tout de suite taraudé, c'est qu'est-ce qui vous a poussé Plan 9 à créer, à produire justement des créations, comment dirais-je, à destination du jeune public, des créations musicales. C'était surtout cette question-là, moi, qui me venait à l'esprit au départ.
C'est vrai que nous, notre premier, l'axe principal, c'est vraiment la diffusion du court-métrage, et donc on fait régulièrement des séances destinées aux enfants. On en a toujours fait dans le cadre du festival et à d'autres moments de l'année. Et puis, moi, j'anime des ateliers de programmation de court-métrage. C'est-à-dire que je fais visionner à des enfants dès la primaire, jusque chez les très grands, jusqu'au lycée, une multitude de court-métrages. Et ensuite, ils doivent débattre, programmer, argumenter ensuite leur choix et construire un programme. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que sur les plus jeunes, il y avait des remarques très intéressantes, et puis il y avait un rapport, pas le même que nous en tout cas face à un film, et ils prenaient vraiment en considération les bruitages, parce que principalement je rentrais des films d'animation du coup, aux petits, et ils prenaient bien la place du bruitage, la place de la musique, enfin voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Et comme de par ma vie privée je suis aussi musicienne, j'avais envie d'expérimenter un peu le travail de musique et de création à l'image. Surtout de procurer des émotions en fait. Voilà, ma première envie c'était de leur procurer des émotions. Et je trouvais que les films en font déjà beaucoup.
Oui.
Et la musique de toute seule, enfin je veux dire, quand moi je vais à un concert, j'en ai aussi beaucoup. Et je me disais que le rapport des deux était intéressant, surtout de se caler sur des images et qu'il y avait de montrer aux enfants que c'est pas la même chose de jouer telle ou telle musique sur un film et que l'émotion peut varier en fonction de ce qu'on joue. C'était ça le premier but, enfin la première envie en tout cas de création.
Avec des formes en fait assez singulières, puisque dans ce que vous avez proposé à travers ces deux créations, mélodie en cours et si le ciel était vert. L'idée, c'était d'associer surtout donc, la musique et l'image, d'accord, mais sortir surtout du schéma classique du ciné-concert, qui est quand même assez fréquent et régulier dans les programmations jeunes publics, notamment en musique. Et l'idée, c'était aussi d'intégrer du spectacle à ces créations-là. Donc il y avait un vrai défi, pour le coup, pas évident en fait, entre la musique, l'image et le spectacle.
Bah, c'est vrai qu'en fait, je voulais que les enfants se posent la question, est-ce que quand on regarde un film, ou en tout cas, est-ce que quand on regarde un écran où des images sont diffusées, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est dans le monde du rêve ou de l'imaginaire et qu'est-ce qui n'y est pas? Et quand on est sur un plateau et qu'il y a des musiciens sur scène, est-ce qu'ils peuvent à la fois rentrer dans cette image et interagir avec les films qu'on a vus avant? Donc c'était un jeu de voilà ce qu'ils se disent. En fait, donc là vous avez vu un extrait, au début ils sortent de l'image, on a fini dans l'autre création ici, si était vert, il y a des scénettes qu'on a écrites et qu'on a jouées vraiment en mode de tournage cinéma en studio, qui sont intercalées entre les films, parce que sur scène il y a tout un décor qui varie et qui évolue en fonction des. Enfin voilà, des éléments de décor qui s'allument au fur et à mesure, et une porte qu'on appelle la porte de l'imaginaire, et quand les musiciens franchissent cette porte, ils ne sont plus sur scène mais à l'écran, dans des scénettes qu'on a créées et qui rappellent le film passé. Donc il y a des objets qui interviennent, que eux manipulent, et puis ils font souvent des erreurs, et quand il y a des erreurs, quelquefois ils repassent cette porte et ils reviennent sur scène pour jouer. Et enfin, les enfants, tout de suite, de toute façon la première apparition, quand ils arrivent sur scène, le fait qu'ils soient dans l'écran avant, il y a toujours un moment de. Mais même les ados, hein, y a quand on joue, il y a des ados qui se disent mais comment ils ont fait. Et souvent, quand on fait à la fin de la représentation un échange et qu'on laisse les enfants venir sur scène, ils sont tous en train de passer la porte. Et là, le copain devant qui dit je te vois pas, je te vois pas, tu y es pas dedans, tu y es pas. Et en fait, ce rapport-là, je le trouvais vraiment intéressant parce que ça leur pose une vraie question de quand on regarde un film, c'est vrai ou c'est pas vrai alors. Enfin, j'ai remarqué ça, et puis l'image elle est en noir et blanc, et souvent, dans le premier, dans le deuxième, non. Et souvent on me dit, mais alors en fait ils sont morts. Parce que pour eux c'est une image d'archive, ouais. Et l'archive elle est en noir et blanc, et donc du coup ben, les personnages sont morts. Quoi. Et quand ils apparaissent sur scène, ils disent, mais pourtant ils sont là. Enfin, du coup il y a un jeu comme ça de. Voilà, donc c'est vraiment ça qui moi m'intéressait quand j'ai proposé aux musiciens de participer au projet.
Donc j'imagine que ça conduit certainement à un travail de création quand même assez conséquent. Ouais. Notamment avec la porte de l'imaginaire, puis à la fois un travail de composition musicale, de scénographie, de mise en scène qui a dû être. Comment vous avez travaillé là-dessus en fait,
alors moi j'ai une formation plutôt. J'ai fait une école de cinéma, donc j'ai une formation plutôt cinéaste. Voilà. Donc j'ai écrit les scénettes. En fait, j'ai écrit, c'est un peu mon problème, mais j'écris tout. Et je leur donne en étant assez strict sur ce que j'ai écrit. Donc c'est plutôt au moment du jeu, comme moi par contre j'ai pas la compétence de gérer des comédiens qui ne sont pas des comédiens d'ailleurs, qui sont des musiciens avant tout, parce que je voulais des musiciens en fait très musique actuelle, donc c'est-à-dire que c'est à l'inverse complètement, c'est la batterie, de la guitare, du piano, l'électro, et c'est des musiciens qui n'ont jamais joué pour le jeune public, pas du tout, c'est des gens que moi je côtoyais dans mon entourage de musique. Donc du coup, il y avait aussi ce côté difficulté de gérer une mise en scène et une direction d'acteurs qui ne le sont pas. Enfin, là, il y a eu tout un apprentissage à faire ensemble. Mais pour les scénettes, en tout cas, moi, je les écris. Les films, vu que ça, c'est vraiment plus ma compétence, je les choisis. Je leur présente. Généralement, à chaque fois, en tout cas, ils m'ont dit « Ouais, les films, ça fonctionne. » Il y a une cohérence dans le premier spectacle. C'est vraiment sur le monde de la rêverie, de la littérature, voilà. Et le deuxième spectacle, c'est plus sur le monde, c'est l'amitié, le lien entre les gens, la différence, voilà. Donc je choisis des films avec ces thèmes-là, et je leur propose. Et puis ensuite, le premier spectacle, ils ont composé à trois, en faisant des allers-retours en permanence, parce que c'est pas si simple pour un musicien qui n'a jamais créé sur de l'image, parce que c'était leur cas, de comprendre la narration qu'il faut mettre dedans. Parce que je leur ai demandé à la fois de faire les bruitages en direct, parce que tout est joué en direct. Hein. Donc les bruitages en direct, et qu'il y ait à la fois de la musique, on va dire, rythmique à des moments, et de la musique narrative à d'autres moments, pour qu'on accentue sur certains éléments de l'histoire, et qu'il y ait un fil conducteur comme ça. Donc ils m'ont fait des propositions de thèmes, souvent au piano, donc Et puis alors, quasiment sur les trois premiers, ça a fonctionné direct. Donc on a travaillé ensuite. Moi, j'étais souvent là aux répétitions. Et puis il y a un film, celui que vous avez vu, où il crée des lumières en clignant des yeux, là, où ça a été plus compliqué. Ils m'ont proposé 3-4 thèmes, ça ne matchait pas du tout, parce qu'en fait c'est hyper rythmique comme film. Et puis d'un seul coup, voilà, le guitariste a trouvé un rythme, c'est plutôt un guitariste rockabilly, alors il a trouvé un rythme un peu spécifique. Et là ça a marché direct, donc ils ont créé après. Mais j'interviens à chaque étape.
D'accord, voilà. De création. Et avec des compétences quand même extérieures.
Alors on a...
Est-ce que vous sollicitez aussi d'autres structures sur Dijon pour leur compétences ou sur la région en même temps comment ça marche
Pour la partie tournage des scénettes, on a fait un partenariat avec l'Ardam, donc on avait mis à disposition les locaux pour tourner et tout ça. Et puis pour la partie, sur les deux créations, on est en résidence à la Minoterie les deux fois.
D'accord.
Où on a eu une semaine de résidence à chaque fois. Et où moi j'ai demandé à Christian Duchange d'avoir un regard en fait, et surtout sur l'aspect direction de comédien, un peu de la mise en scène. Et parce que moi je sais pas du tout, il faut que je me forme encore et c'est pas mon cœur de métier quoi.
Ouais.
Et c'est pas simple de diriger des musiciens qui ne sont pas acteurs et qui moi ne suis pas metteur en scène. Et du coup, il faut réussir à s'imposer et c'est pas évident aussi. C'était pas tout de suite simple.
D'accord.
Et après, il y a toute une création lumière aussi, parce qu'il y a progressivement des éléments de décor qui s'allument, qui s'éclairent, puisque comme il y a des éléments des films qui sont sur scène, je voulais que les enfants, à des moments, puissent se dire « Mais regarde, le tableau de Jackson Pollock qui est là dans le film, en fait, il est sur scène en même temps. » Et donc, il y a tout un jeu de lumière à créer. Donc, il y avait un ingé lumière avec nous qui a fait des propositions, et on a créé tout ça à la Minoterie.
Donc il y a une vraie dimension d'équipe dans cet accompagnement.
Oui, on est 6 en tout.
Vous êtes 6. Et aussi, en prenant compte aussi, avec un processus artistique long, c'est quelque chose qui est assez spécifique aussi. Dans le cadre d'une création en général, mais pour le jeune public, peut-être plus particulièrement, il y a un vrai enjeu par rapport à cela ou pas ?
Sur le temps de création ?
Oui, le temps de création. Pas forcément.
Moi, j'ai pas trop de références, parce que comme j'avais...
Moi non plus, j'ai pas fait trop.
Mais en fait, le temps est assez long, parce que, par exemple, pour Mélodie en cours, on a commencé, j'ai choisi peut-être les films, en janvier. Ils ont mis à peu près, je pense, 3-4 mois pour composer, répéter, Et puis après, on a eu notre résidence, en octobre, et on a fait notre première en novembre.
D'accord.
Donc ça fait à peu près
Il y a un processus,
7-8 mois. Oui. Parce qu'en parallèle, on a tous aussi... moi, je dirige une structure avec un festival. Ouais,
Ce qui est aussi intéressant dans ce qu'apportent ces créations-là, c'est l'idée de l'interdisciplinarité.
Ouais.
En fait, on associe différents champs artistiques, comme on le fait aussi avec le public. Justement, est-ce que vous pensez que le spectacle jeune public a un vrai rôle à jouer là, dans cette interactivité, dans cette association pour gagner en épaisseur, pour gagner en crédibilité aussi artistique, le fait de pouvoir s'associer avec d'autres champs disciplinaires, en fait, d'autres associations artistiques.
Moi, je trouve ça important de montrer aux enfants, en tout cas, qu'il y a une multitude de possibles et que le jeune public, ça ne s'arrête pas au théâtre, en fait. Mmh. Et qu'il y a d'autres choses, qu'il peut y avoir peut-être de la BD aussi qui peut être mis en musique, plein d'autres choses différentes, et ça je pense que c'est intéressant.
Ouais.
Moi en tout cas c'est ce que je voulais, et le choix aussi, souvent dans les ciné-spectacles, enfin du ciné-concert, c'est des films muets de Chaplin ou de Buster Keaton avec des musiciens classiques, et moi je voulais surtout pas ça, je voulais des films hyper récents avec des musiciens qui jouent du rock sur scène, et leur montrer autre chose. Alors du coup, nous on a eu une problématique du niveau sonore, de faire super attention à ça.
Ça aussi, donc.
Parce que si d'un seul coup on a un truc disto avec un batteur qui est habitué à jouer fort sur scène,
C'est 105 dB.
Non, c'est beaucoup moins pour les
Non, non, mais la règle...
on fait attention à ça, quoi.
D'accord.
Mais c'était aussi important de leur montrer... là, dernièrement, par exemple, je sais qu'on a joué, c'était la première fois qu'un petit garçon qui avait 5 ans allait pour lui au concert, et il a passé l'heure devant la batterie. À 2 mètres, donc sa maman lui disait bon, faire attention. Mais en fait, je pense qu'il était subjugué de l'instrument. Et après, il est allé derrière, il a essayé pendant 30 minutes. Donc c'est, voilà, c'est ça aussi qui est intéressant.
L'interdisciplinarité a forcément un rôle de toute façon dans... est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Parce que je suis désolé. Voilà.
Non, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris, en fait, vous réalisez les courts-métrages, vous partez de courts-métrages...
En fait, on a une partie où c'est des courts-métrages qui sont faits. Que je demande au réalisateur de l'autorisation pour les utiliser pour refaire. Parce qu'en fait, on enlève toute la bande-son, donc on rejoue tout. Il y a des films qu'on déboîte, on refait les voix off, tous les bruitages, voilà. Et nous, on rajoute des scénettes qu'on tourne nous,
d'accord,
avec les musiciens. Donc ça, en gros, ça commence par une scénette, il y a un film réalisé par un réalisateur, une autre scénette à nous, et ainsi de suite.
Juste pour savoir, vous parliez de style de musique et de distorsion sur les guitares qui pourraient faire peur à un enfant au niveau sonore. Et ma question, c'est pourquoi ne pas prendre ce risque de mettre cette distorsion, mais peut-être un peu moins fort et du...
Ah, mais on le fait, hein.
Ah, ok, d'accord.
Non, on le met. C'est juste que du coup, forcément, la première fois, les premiers spectacles, c'est arrivé, par exemple, que des parents ou même des enfants, je vois que c'était trop fort, quoi, et que du coup on se dise bon bah en fait on n'est pas encore dans le bon niveau, quoi, il faut faire attention.
Après, c'est une question de réglage, c'est ça.
Ouais c'est à l'ingé son de, mais du coup comme on est une équipe qui étions novices pour le jeune public et qu'on avait nos réflexes de nous on était plus à jouer à la vapeur que pour le jeune public, donc le réflexe de ton niveau sur ton ampli et du niveau de l'ingé son, il n'est pas le même, et du coup voilà, il a fallu s'adapter vraiment, quoi, et on a fait que baisser au fur et à mesure parce que tu ne veux pas regarder un spectacle et voir les enfants se boucher les oreilles, quoi. Donc, donc du coup, il fallait vraiment faire attention à ça, quoi.
Okay. Ta vision, un petit peu, comme j'ai posé à Audrey Vivien, mais ta vision, toi, de la création musicale jeune public aujourd'hui, c'est quoi tes attentes aujourd'hui sur, vous êtes à deux créations, il y a des envies de... Parce que vous produisez aussi, hein.
Ouais.
Vous créez, enfin l'idée de produire aussi, c'est un choix délibéré. C'est comment c'est venu ça, cette histoire-là? Naturellement,
ouais,
peut-être, ouais.
Oui. Ah ouais, c'est venu naturellement.
Il n'y a donc une case en plus pour la aider, donc.
Ouais, c'est vrai.
On rentre dans rien. Ouais.
Ouais, vous rentrez.
Ça c'est vrai. En fait, on a notre cœur de métier, c'est le cinéma, donc pour ça on est aidé. On fait pas de la musique pure.
Ouais.
Et on fait pas du théâtre non plus, et donc du coup on rentre dans aucune case, mais après c'est ça aussi qui fait, je pense, la richesse de la proposition et que les retours soient plutôt assez positifs. Mais peut-être que ce qui est un peu compliqué, par exemple là on réfléchit à une nouvelle création et c'est pas évident de cibler des musiciens qui vont faire du jeune public, enfin qui veulent faire du jeune public par exemple, parce que j'ai un réseau plutôt classique. Et comme vous disiez, l'équipe de Ramdam, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... je me dis, par exemple, nous, en région, là, pour la prochaine création, je sais, je ne vais pas reprendre les mêmes musiciens, je vais prendre le même compositeur, mais qui ne va pas jouer sur scène. Et je me dis, quel musicien de groupe de musique actuelle aurait envie de faire du jeune public? Parce que ce n'est pas tout le monde, quoi. Ça, par exemple, c'est un truc que je me demande.
D'accord. Et dans l'idée, ce serait faire un appel à participation pour pouvoir éventuellement rencontrer d'autres musiciens ou faire ces décroisements. Ça,
je pense que c'est pas un réflexe pour les musiciens encore,
non,
de se dire on peut faire du jeune public quand on...
Après, c'est pas... Ouais,
c'est pas un réflexe, puis c'est pas forcément une envie, mais
oui,
c'est
pas
si
ça
aussi.
Vas-y, Audrey. Ouais.
Non, j'allais juste... mais tu l'as dit, c'est une méconnaissance, parce que nous, on découvre... moi, j'avais fait une mise en scène avec Vivien de Jérémy Fischer, c'était d'une pièce de Mohamed Rouabi, et on avait de la musique mais enregistrée. Et je ne m'étais pas dit à l'époque, on va mettre les musiciens sur scène. Il n'y avait pas du tout de genèse, du bic ou quoi que ce soit, on l'a venu après et je ne connaissais pas en fait. Donc, je savais pas. C'est juste pour rebondir là-dessus, je comprends que les musiciens, et ça peut même faire peur en fait, parce qu'on se dit, j'ai le public. Alors qu'en fait, il y a plein de choses super et.
Après, ça n'est pas non plus, je pense que, enfin, sur le musicien, après, je ne suis pas musicien, mais ça n'est quand même du... Enfin, on n'est pas dans la volonté de dire, on va faire du jeune public. On part sur une création qui se dit, tiens, ça peut être... Enfin, je ne sais pas comment... Enfin, on va peut-être arrêter là, parce que c'est vrai que ça va peut-être... Mais l'idée, elle est là aussi. C'est, quand tu parles de méconnaissance, c'est en fait, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? concrètement. Ouais. C'est ça, quand on parlait de méconnaissance, parce que c'est vaste la méconnaissance, mais quand tu dis, on pourrait peut-être, il y a, je sais pas, des musiciens qui peuvent se croiser, des structures qui peuvent porter des choses, ou d'autres, je pose des questions, voilà, comment ça fonctionne. Sur les réseaux Ramdam, par exemple, nous, on essaye d'apporter de la ressource, en effet, par rapport à des rencontres sur les territoires, parce qu'on va beaucoup au-devant des territoires, on rencontre pas mal d'acteurs, etc. Et en effet, il manque parfois une forme de structuration, de veille qui est importante. Mais la veille, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait répondre à vos besoins, à vos exigences, je ne sais pas. Voilà.
Sans doute pas que des dispositifs. Enfin,
c'est
moi,
ça.
Je me suis battu ici avec l'équipe de la minoterie pour être aussi dans l'accompagnement, pas seulement avec un chèque,
c'est
des
ça.
Locaux et une clé accrochée qu'on remet en sortant sur le clou, quoi. Donc il y a effectivement, parce que dire de quoi on a besoin quand on ne sait pas ce qui existe, c'est compliqué de se projeter dans autre chose.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de lieux ressources, de moments d'accompagnement et de discussion avec des pairs ou des gens qui ont pris de l'avance sur ces questions-là.
Et puis, pour répondre aussi à la question du décloisonnement, pour moi, essentiel, donc une rencontre comme aujourd'hui, c'est des moments qui peuvent être très riches et très fructueux. Mais je trouve qu'on souffre beaucoup de... Tout est très cloisonné. Mmh. Et toutes les initiatives qui peuvent inviter à décloisonner les disciplines, et c'est encore peut-être pas... Ça, je pense,
c'est pas encore totalement.
Non,
il y a un début de cheminement quand même.
C'est
hein,
ça, oui, il y a un
voilà.
début.
Ça commence à se.
Ce qui va dans ce sens-là va forcément aider.
Parce que c'est vrai qu'on était très. Enfin, nous, clairement, par exemple, à Dijon, on était identifié structure organisatrice de fenêtures courtes.
Oui.
Et quand je suis allée voir les gens pour leur dire, voilà, on a envie de faire ça, enfin, au début, ils se sont dit, on va pas bien.
Ouais.
Donc, toi, c'est le festival, en fait, ton travail. Ouais, et ça, c'était pas évident, en effet, au début, de convaincre.
C'est vrai qu'on a une culture de l'étiquette qui est assez, assez répandue aujourd'hui, quand même. Hein. Ça a toujours existé. Mais, Donc, croisons-nous alors. C'est ça. C'est ça.
On n'ose pas faire ce qu'on n'a jamais fait, par exemple.
C'est ça.
Pour vous, ça pourrait être, par exemple, inquiétant de partir d'un texte préécrit sur lequel vous auriez l'impression d'illustrer avec votre musique un truc qui préexiste à votre travail. Quoi.
En fait, on y a. Enfin, juste pour rebondir, on est allé au. Pardon, je cherche où c'était. Non, Céline Maurice. On était sur un salon du livre jeunesse et on avait rencontré un auteur et on s'était posé la question tous les trois. On avait parlé avec Simon. Tiens, un jour, pourquoi ne pas demander une écriture originale à quelqu'un pour travailler dessus, etc.
Ou lire tous les textes qui existent, il n'y en a pas mal. Arrêtez de commander des nouveaux textes. Il y en a plein qui mériteraient d'arriver sur scène, qui sont dans les bibliothèques à dormir d'ennui.
Oui, c'est Stéphane Servan.
Tu voulais dire quelque chose pour finir ?
Non, moi, c'est surtout par rapport à mon parcours personnel d'avoir été étudiant conservatoire, etc., en France, puis après, je suis à Laval en Suisse. C'est vrai qu'effectivement, c'est très cloisonné et il y a une méconnaissance totale de ce que c'est que la programmation jeune public aujourd'hui. Tout simplement, on dit ah non, jeune public, je vais pas me lancer là-dedans, etc. Alors que non, tout est possible là-dedans. Donc, il faudrait plus de rencontres avec des gens qui sortent des conservatoires. C'est pas forcément va auditionner pour les chœurs de l'Opéra de Paris, etc. Il y a d'autres choses à faire. Et c'est très très mal vu dans les conservatoires la pluridisciplinarité. Par exemple, moi, en même temps que mon conservatoire, je faisais une école de théâtre. Je me faisais déglinguer, quoi, parce que c'était tu te consacres pas qu'au chant, donc blablabla. Puis il y a autre chose aussi, c'est que nous, on est assez frustrés dans nos saisons de faire si peu de familial. Et je parlais avec la programmatrice de la Soufflerie de Rezé, qui a dit, cette année, on tente un truc, on programme un jeune public, paf, en soirée, pour voir comment ça réagit, si ça ramène du monde, on prend un risque peut-être, mais voilà, ils tentent ce truc-là de... je crois qu'il y a eu quelques scolaires avant, mais leur jeune public est en familial le soir à 20h, à une heure où normalement tu fais des gnocchis aux enfants et tu les bouges. Ben non, là on va ce soir en au théâtre. Et je pense que c'est ça qui manque encore et qui est assez frileux de programmons un jeune public, parce qu'il y a plein de jeunes publics qui marchent en tout public et même je pense qu'ils marchent mieux en tout public qu'en scolaire.
On va arrêter sur ces belles paroles. Je vous remercie surtout de votre disponibilité, d'avoir répondu à l'invitation et puis de votre invitation.